Henry James, un portrait de femme, chapitre 25. Pendant que se poursuivait ce colloque suffisamment intime, qui se prolongea quelque temps encore, Madame Merle et sa compagne s'étaient mises, après un long intervalle de silence, à échanger quelques propos. Elles gardaient une attitude de muette expectative, surtout la comtesse Gemini, qui, de tempérament plus nerveux que son amie, pratiquait avec un moindre succès l'art de déguiser son impatience. L'objet de leur attente n'était pas apparent, et ne se formulait peut-être même pas très clairement dans leurs esprits. Madame Merle attendait qu'Osmonde libérât leur jeune amie d'un long tête-à-tête, et la comtesse attendait pour faire comme Madame Merle. Elle jugea du même coup l'heure bien choisie pour une de ces petites méchancetés qu'elle cherchait sans doute à lancer depuis quelques minutes, et suivant des yeux son frère qui avait emmené Isabelle au bout du jardin. « Ma chère, déclara-t-elle, vous m'excuserez de ne pas vous féliciter. Je vous excuse d'autant plus volontiers que je ne vois pas de raison de recevoir vos compliments. N'avez-vous pas un petit projet qui vous semble assez bien ourdi ?» Et la comtesse désigna d'un signe de tête le couple isolé. Madame Merle tourna les yeux dans la direction indiquée, puis regarda sa voisine avec un paisible sourire. « Vous savez que je ne vous comprends jamais très bien, dit-elle. Personne ne comprend mieux que vous quand vous vous en donnez la peine, et je vois qu'en ce moment vous ne voulez pas comprendre. » « Vous me dites des choses que personne d'autre ne me dirait, constata Madame Merle avec gravité, bien que sans amertume. Des choses qui ne vous plaisent pas, voulez-vous dire. Est-ce qu'Osmonde ne vous en dit pas aussi, certains jours ? Les paroles de votre frère ont toujours une pointe. Oui, une pointe empoisonnée parfois. Si vous voulez me laisser entendre que je ne possède pas son intelligence, il ne faut pas croire que cette opinion me navre. Et mieux vaudrait que vous me compreniez. Pourquoi donc ? À quoi cela me mènerait-il ? Si je n'approuve pas vos combinaisons, vous avez intérêt à le savoir pour apprécier le danger de mon intervention. Madame Merle parut un moment supputer la part de vérité que comportait cette menace, mais n'en reprit pas moins avec un calme imperturbable. « Vous me croyez plus calculatrice que je ne le suis. Je ne vous reproche pas de calculer, mais de calculer à faux, c'est ce qui vous arrive dans le cas présent. Vous avez fait vous-même des calculs bien ardus pour en tirer cette conclusion. Non, je n'en ai pas eu le temps, c'est la première fois que je vois cette jeune fille, et ma conviction s'est faite spontanément. Elle me plaît beaucoup. » « À moi aussi, dit Madame Merle. Vous avez une étrange façon de le prouver. Ne lui ai-je pas procuré l'avantage de faire votre connaissance ? Évidemment, minauda la comtesse, c'est peut-être ce qui pouvait lui arriver de mieux. » Madame Merle resta un moment sans répondre. L'attitude de la comtesse était odieuse et vile, mais n'avait rien d'inattendu, et les yeux fixés sur la pente violette du Monte Morello, Madame Merle s'abandonnait à la réflexion. « Ma chère amie, dit-elle enfin, je vous conseille de ne pas vous agiter. L'affaire dont vous parlez intéresse trois personnes de volonté autrement forte que la vôtre. Trois personnes ? Osmonde et vous, cela va sans dire. Mais Miss Archer est-elle vraiment si forte ? Tout autant que nous. Alors, conclut triomphalement la comtesse, si je lui persuade qu'il est de son intérêt de vous résister, elle saura le faire avec succès. De nous résister ? Pourquoi employez-vous des expressions pareilles ? Elle n'est pas plus exposée à la contrainte qu'à la duplicité. Je n'en sais trop rien. Vous êtes capable de tout, Osmonde et vous. Je ne dis pas Osmonde seul, ou vous seul non plus. C'est ensemble que vous devenez dangereux, comme certaines combinaisons chimiques. Alors il serait plus prudent de nous laisser tranquilles, conseilla Madame Merle avec un sourire. Je ne veux pas vous toucher, je me contenterai de parler à cette petite. Ma pauvre amie, murmura Madame Merle, je ne sais pas ce que vous vous êtes fourré dans la tête. Je m'intéresse à elle, voilà tout. Elle me plaît. Je ne crois pas que vous lui plaisiez, vous, déclara Madame Merle après une brève hésitation. Les petits yeux brillants de la comtesse s'écarquillèrent et son visage grimaça. Ah, vous êtes dangereuse, même à vous seule. Si vous voulez lui plaire, ne lui dites pas de mal de votre frère, conseilla Madame Merle. Vous n'allez pas prétendre qu'elle se soit amourachée de lui pour l'avoir vu deux fois. Madame Merle regarda un moment Isabelle et le maître de la maison. Les bras croisés, le dos au parapet, il faisait face à la jeune fille qui, malgré toute son apparente attention pour le panorama étendu sous ses yeux, ne le voyait sans doute guère. Elle baissa les yeux sous le regard de Madame Merle, elle écoutait avec un certain embarras les paroles d'Osmonde et enfonçait dans le gravier la pointe de son ombrelle. Madame Merle se leva de son siège. « Si, je le crois parfaitement, affirma-t-elle. » Le jeune domestique, appelé par pensée, Il aurait pu, avec sa livrée ternie et son type bizarre, sortir du cahier de croquis d'un maître ancien, comme du pinceau d'un Longhi ou d'un Goya, apportait une petite table qu'il disposa sur la pelouse, puis s'en fut chercher le plateau du thé. Après une nouvelle éclipse, il revint avec deux chaises. Pensée, qui suivait ses préparatifs avec l'intérêt le plus marqué, gardait les mains croisées sur le devant de sa petite robe et ne s'était pas risquée à proposer son aide. Pourtant, quand la table à thé fut préparée, elle s'approcha doucement de sa tante. « Croyez-vous que papa serait fâché si je faisais le thé ?» La comtesse la considéra d'un œil volontairement critique et sans répondre à sa question. « Ma pauvre nièce, demanda-t-elle, est-ce que c'est ta plus jolie robe ?»« Oh non, répondit l'enfant, c'est une petite toilette pour les jours ordinaires. » « Alors c'est un jour ordinaire que celui où je viens te voir, sans parler de Madame Merle et de cette jolie demoiselle ?» Pensée réfléchit un moment, se tournant gravement vers l'une ou l'autre des personnes désignées. Puis son expression se détendit en un charmant sourire. « J'ai une jolie robe, mais qui est très simple aussi. Pourquoi la montrer à côté de votre belle toilette ?»« Parce que c'est la plus jolie que tu aies. Pour moi, il faut toujours sortir ce que tu as de mieux. Tu me feras le plaisir de la mettre la prochaine fois. Il ne me semble pas qu'on t'habille aussi bien que possible. » L'enfant caressait avec ménagement sa jupe démodée. « C'est une bonne petite robe pour faire le thé, ne trouvez-vous pas? Est-ce que vous ne croyez pas que papa me le permettrait ?»« Je ne puis te le dire, mon enfant, répondit la comtesse. Pour moi, les idées de ton père sont insondables. Madame Merle les pénètre mieux, adresse-toi à elle. » Madame Merle sourit avec sa grâce coutumière. « C'est une grosse question, laissez-moi réfléchir. Il me semble que votre père serait content de voir une petite fille soigneuse préparer son thé. C'est le premier devoir de la fille de la maison quand elle grandit. « C'est ce que je trouve, Madame Merle, » s'écria Pensée. « Vous verrez comme je vais bien le soigner. Une cuillerée par personne. » Et elle commença de s'agiter autour de la table. « Deux cuillerées pour moi, » corrigea la comtesse, qui regardait avec Madame Merle les préparatifs de la fillette. « Dis-moi, enfant, » reprit-elle bientôt, « je voudrais savoir ce que tu penses de ta nouvelle amie. »« Ce n'est pas la mienne, c'est celle de papa, » objecta Pensée. « C'est vous aussi que Miss Archer est venue voir, » dit Madame Merle. « Je suis très heureuse de le savoir. Elle a été très gentille pour moi. »« Alors elle te plaît ?» insista la comtesse. « Elle est charmante, charmante !» répéta Pensée de son petit ton décidé. « Elle me plaît tout à fait. »« Et comment crois-tu qu'elle plaise à ton père ?»« Je vous en prie, comtesse !» murmura Madame Merle d'un ton réprobateur. « Allez leur demander de venir prendre le thé, » dit-elle à l'enfant. « Vous allez voir s'ils ne le trouveront pas bon, » lança Pensée, en se dirigeant vers les deux solitaires du bout de la terrasse. « Si Miss Archer doit devenir sa mère, il n'est sûrement pas sans intérêt de savoir ce que cette petite pense d'elle, » dit la comtesse. « Si votre frère se remarie, ce ne sera pas pour penser, » répliqua Madame Merle. « Elle va avoir 16 ans, et c'est d'un mari plutôt que d'une belle-mère que l'on parlera bientôt pour elle. « Et vous procurerez aussi le mari ?»« Je m'intéresserai certainement à ce qu'elle fasse un heureux mariage. J'imagine qu'il en ira de même de vous. » « À coup sûr non !» s'écria la comtesse. « Pourquoi moi, entre toutes les femmes, attacherais-je un tel prix à un mari ?»« Vous n'avez pas fait un mariage heureux, c'est ce que je veux dire. Quand je parle de mari, c'est d'un bon mari que j'entends. Il n'y en a pas de bon. Osmonde ne fera pas un bon mari. » Madame Merle ferma un moment les yeux. « Vous êtes irritée sans que je sache pourquoi, » reprit-elle. « Je ne pense pas que vous trouviez vraiment quelque inconvénient au mariage de votre frère ou de votre nièce quand le moment en sera venu. » En ce qui concerne Pensée, je compte bien que nous aurons un jour le plaisir de lui chercher un mari ensemble. Vos nombreuses relations nous aideront beaucoup. « Oui, je suis irritée, » concéda la comtesse. « Vous m'exaspérez souvent. Vous avez un sang-froid fabuleux. Quelle étrange femme vous faites !»« Il vaut bien mieux que nous marchions toujours la main dans la main, » dit Madame Merle. « Est-ce une menace ?» demanda la comtesse en se levant. Madame Merle tourna la tête avec une ironie paisible. « Décidément, il faut le reconnaître, vous n'avez pas mon sang-froid. » Isabelle et Osmonde revenaient doucement vers les deux dames, et Isabelle tenait Pensée par la main. « Vous n'allez pas me faire croire qu'il la rendrait heureuse, » s'indigna la comtesse. « S'il épousait Miss Archer, je suppose qu'il se conduirait en galant homme ?» La comtesse eut des gestes nerveux et prit une pause significative. « C'est-à-dire comme la plupart des hommes, elle aurait bien de quoi s'estimer satisfaite. Évidemment, Osmonde est un galant homme, ce n'est pas à sa sœur qu'il faut le rappeler. » Mais est-ce qu'il se croit fait pour conquérir une jeune fille du jour où il la choisira ? Galant homme, j'en conviens, bien que je doive avouer que je n'ai jamais, au grand jamais, compris la raison de ses prétentions. Sur quoi les fonde-t-il ? C'est plus que je n'en saurais dire. Je suis sa sœur, je devrais pourtant le savoir. Qu'est-il après tout, s'il vous plaît ? Qu'a-t-il jamais fait ? Si l'on connaissait quelque chose de vraiment grand dans son origine, s'il était d'une essence supérieure, j'aurais quelque chance d'en avoir eu vent. S'il existait dans la famille grands honneurs ou splendeurs quelconques, j'en aurais certainement profité, c'eût été tout à fait dans ma ligne. Mais il n'y a rien, rien, rien. Nos parents étaient naturellement des gens charmants, ce qui ne les distingue évidemment pas des vôtres. Tout le monde est charmant de nos jours. Même moi, je suis charmante. Ne riez pas, on l'a dit en propres termes. Quant à Osmonde, il fait toujours l'impression de se croire descendu des cieux. « Vous direz ce que vous voudrez, rétorqua Madame Merle, que le fait de rattacher les nœuds de ruban de sa robe et de laisser distraire ses regards n'empêchait pas de prêter attention à cette sortie impétueuse. Vous autres, Osmonde, êtes une belle race. Votre sang doit sortir d'une source très pure. En homme intelligent, votre frère en a toujours eu la conviction, sinon l'épreuve péremptoire. Vous faites la modeste, ce qui ne vous empêche pas d'être vous-même extrêmement distinguée. Et votre nièce, qu'en dites-vous donc? Que c'est une petite princesse? Cela ne veut pas dire qu'Osmonde ne puisse avoir quelque peine à épouser Miss Archer. Du moins peut-il encourir la chance. J'espère qu'elle refusera. Ce serait une façon de rabaisser un peu ses prétentions. Il ne faut pas oublier que c'est un des hommes les plus intelligents qui soit. Je vous l'ai déjà entendu dire, sans jamais pouvoir découvrir ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, il n'a jamais rien fait qu'il ait fallu défaire, et il a su attendre. Attendre l'argent de Miss Archer. Combien cela représente-t-il donc ? « Ce n'est pas ce que je dis, protesta Madame Merle. Miss Archer a 70 000 livres. »« Eh bien, il est dommage qu'elle soit si charmante, déclara la comtesse. Pour un sacrifice de ce genre, la première venue aurait fait l'affaire. Pas besoin d'une femme supérieure. »« Si elle ne l'était pas, votre frère ne la regarderait pas. Il lui faut ce qu'il y a de mieux. » »« Oui, riposta la comtesse en s'avançant avec Madame Merle à la rencontre des deux autres. Il est bien difficile à satisfaire. C'est ce qui me fait trembler pour le bonheur de cet enfant. »